Échange public, émission exceptionnelle. Philippe Bouvard, 50 ans de RTL.
Vincent Perrot.
Bonjour à tous et bienvenue dans le grand studio RTL pour vivre ensemble aujourd'hui une émission exceptionnelle. Oui, vous allez assister à une émission unique. Unique d'ailleurs dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'elle ne pourra jamais se reproduire puisque c'est une émission anniversaire. Mais vous allez me dire, quel anniversaire fêtons-nous aujourd'hui ? Il est vrai que nous pourrions célébrer l'homme aux 60 ans de journalisme, oui. L'homme aux 30 000 articles publiés dans la presse, oui. Également l'homme qui a possédé plus de 100 voitures, l'homme aux 6 000 émissions de télévision, c'est vrai. Mais ici, en public aujourd'hui, dans le grand studio de la rue Bayard, nous préférons, et de loin, célébrer la carrière que notre homme a menée durant 5 décennies sur la première radio de France, c'est-à-dire les 50 ans de succès de Philippe Bouvard sur RTL. Nous l'avons avec nous, nous n'allons pas le lâcher. Mesdames et messieurs, accueillez Philippe Bouvard.
Un grand bonjour à toute la famille, parce que c'est une fête de famille aujourd'hui. Et sans vous, elle ne serait pas complète.
Comment allez-vous aujourd'hui, Philippe ?
Eh bien, écoutez, bien, comme d'habitude. Peut-être un peu mieux que d'habitude, parce que j'espère passer un bon moment, et surtout un moment mémorable. Mais elle ne vaut rien cacher. Vous allez évoquer des temps lointains, ça, bien sûr, on est là pour ça. Eh bien, c'est comme si c'était hier.
Alors, Philippe, nous allons, avec les amis du public qui sont avec nous, explorer ensemble le disque dur sonore des grands moments de votre carrière à RTL depuis 50 ans. Et j'ai demandé à ce que l'homme de votre vie professionnelle nous accompagne ici sur scène. Je me permets de parler de l'homme de votre vie, car y a-t-il un autre homme à part lui que vous avez vu ou eu au téléphone tous les jours depuis 37 ans et qui a préparé plus de 13 000 émissions avec vous ?
Ah ben, je ne l'ai pas eu seulement au téléphone. Il était toujours à mes côtés. Et bon, parfois, je ne le voyais pas parce que j'étais comme aujourd'hui un peu trop éclairé et ébloui. Mais il faut savoir qu'on se parlait avant, on ne se parlait pas beaucoup pendant et on se parlait après. Et que ça a été mon premier auditeur et ce sera peut-être le dernier. Et quand il m'avait dit... Ah, ça, c'est pas très bon. Bon, moi, je savais que ça méritait la corbeille quand on n'était pas en direct.
Absolument. Il est votre mémoire sonore vivante. Je vous demande d'applaudir Monsieur Éric Laverdun.
Alors, Éric Laverdun, combien d'heures de radio avec moi ?
Avec vous, on atteint les 15 000 heures.
Bon. Et aujourd'hui, j'en suis à 19 000. Mais il faut vous dire que j'ai un peu abusé de l'antenne parce que pendant des années, non seulement j'intervenais quotidiennement, mais encore on repassait toute l'année et les jours où il n'y avait pas d'enregistrement le samedi, le dimanche, pendant les vacances, on n'échappait pas à ce que j'avais fait. Et notamment la nuit.
En plus, absolument.
J'en ai endormi des insomniaques.
Et vous en avez réveillé quelques-uns, heureusement. Alors, entrons dans le vif du sujet et retournons déjà 50 ans en arrière. Resituez-nous les circonstances de votre arrivée à RTL. Vous vous en souvenez précisément ?
Ah oui, c'est comme si c'était hier. Bon, je pousse la porte du studio, à ceci près que c'est la première fois, et je me prépare à faire ma première intervention qui ne dure que 2 minutes et demie. C'est une petite chronique. J'ai 37 ans, donc je ne suis pas un perdreau de l'année déjà. Hein. Mais après avoir fait pas mal de choses dans la presse écrite et continué, je me suis dit, comme je dicte tous mes articles parce que j'ai trop de collaborations, j'arrive plus à écrire, et que la dictée m'a familiarisé avec l'expression orale, je me suis dit, eh ben, faisons de la radio.
Échange public. Philippe Bouvard. 50 ans de RTL.
Faire de la radio, quand on est étiqueté dans la presse écrite, c'est pas évident. Alors, je m'avise que j'ai un bon copain qui s'appelle Arnold de Contade. Arnold de Contade est le petit-fils par alliance de Jean Prouveau, lequel est un industriel richissime du textile, qui, à 45 ans, est devenu un magna et un inventeur de la presse écrite moderne et qui, complètement sourd, a racheté RTL. Il n'y a aucun lien entre la baisse de son audition et puis son dernier engouement, parce qu'il a beaucoup aimé cette maison. Et donc, Arnold dit à son grand-père, bah, j'ai un copain qui voudrait bien faire de la radio. Bon, y en a beaucoup dans ce cas-là, essayons-le. Et donc, on m'a essayé.
Avec la petite chronique de 2 minutes 30, comme
voilà.
Ça. Voilà. Et puis, évidemment, les choses ont bien évolué. Ça, ce sont les circonstances de votre arrivée. Et puis, à un moment donné, vous faites vos preuves, tout ça se passe bien, et on vous confie, là, pour le coup, de véritables émissions. Là, vous n'êtes pas resté très longtemps à la petite chronique de 2 minutes 30. Hein.
Non, mais il faut dire qu'il y a eu un malheur qui a précédé ce que vous avez l'air de considérer comme un avancement. Le jeune animateur, qui d'ailleurs s'appelait Jean-Michel Desjeunes.
Ah, mais oui.
Et qui était un type prodigieusement doué et qui présentait la session, s'est donné la mort. Et donc, je suis arrivé un jour où tout le monde était en larmes. On devait prendre l'antenne 10 minutes plus tard. Or, vous savez, bon, à la radio, c'est comme au théâtre, il faut que le spectacle continue. Et il fallait que quelqu'un prenne le micro. Et il y avait là quelqu'un dont Éric Laverdin a été longtemps l'adjoint, qui était Bernard Desfous, qui nous a quittés il y a quelque temps. Mais Bernard Desfous a dit, bah, écoutez, il y a Bouvard qui est là, prenons-le et puis demain on avisera. Bah, oui, mais le lendemain,
c'est
j'étais
toujours là. C'est sympa d'être considéré comme un bouche-trou.
et ça a duré pendant 7 ans, tous les jours, en direct, pendant 2h30.
Voilà, la morale de l'histoire, fallait pas l'inviter, parce que quand Bouvard arrive, Bouvard reste. Vous avez compris ?
Échange public. Philippe Bouvard, 50 ans de RTL.
Alors, vous le savez, vous tous qui nous écoutez, puisque vous aimez la radio, et pour cause, vous êtes des auditeurs d'RTL, une émission, traditionnellement, ça commence toujours par un générique. Je me demandais, Philippe, comment expliquer que les notes musicales d'un générique puissent arriver à mettre un présentateur en état, est-ce qu'on peut dire en état de transe même ?
Ah oui, on peut le dire. En tout cas, si ce n'est pas une transe, c'est ce qu'on appelle le réflexe conditionné. Je veux dire, le système nerveux, plus que l'intelligence, perçoit les premières notes du générique et il sait que ça commence.
C'est parti.
Il sait qu'il va falloir qu'il soit pendant quelques minutes ou quelques heures un autre homme. Mmh. Et donc, je n'ai jamais entendu ce générique, mais aussi d'autres, sans sentir que j'étais mobilisé, qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait assurer.
À propos de générique, voici quelques notes de musique qui vont vous rappeler, à vous Philippe, mais à vous tous qui nous écoutez, de très bons souvenirs, les génériques musicaux et vocaux de RTL Non-Stop et du journal de 13h Non-Stop. C'est parti.
Nicole. Philippe Bouvard. Présente RTL Non-Stop.
Le journal à chaud de Philippe Bouvard.
Alors non seulement Philippe, c'est toute une époque, mais spontanément, on sent en écoutant ces deux musiques, ça met les sens en éveil, on se dit, bon sang, il va se passer quelque chose. Je dois être à l'écoute.
C'est quelque chose qui, en tout cas, permet à quelqu'un qui n'est pas seulement votre serviteur d'intervenir, c'est Nicole. Je dis beaucoup de choses, mais Nicole, qui est la speakerine, mais beaucoup plus que ça, qui est l'hôtesse, qui est ma grande sœur, enfin, une grande sœur du même âge que moi. Hein. Bon. Nicole intervient beaucoup. Et alors, Nicole, elle a le rire facile, Nicole. Hein. Il y avait quelque chose qui apparemment était anodin, c'était une pub, car elle était aussi chargée, outre les liaisons, d'assurer les publicités.
Vous allez me parler de la banane.
La banane, c'est un souvenir bon, qui remonte à 40-45 ans, mais qui est inoubliable, alors que c'est une petite pub.
Madame, vous avez forcément des bananes chez vous. Question fruits, c'est formidable. Et alors, question propreté, c'est impeccable. Protégée par sa peau, la banane n'a subi aucun contact avant d'être épluchée. Dire que cette banane, qui est un fruit merveilleux, on ne peut jamais en parler tranquillement. Je vous disais donc que protégée par sa peau, la banane n'a subi aucun contact avant d'être épluchée. Alors, prenez des bananes. Parce que la banane, c'est ça.
Alors, je ne sais pas si l'annonceur de la banane, qui est à l'origine de cette pub, s'est senti trahi, ou si au contraire, il a dit bah, « c'est formidable, parce que c'est la pub la plus drôle du demi-siècle ». Mais on ne pouvait plus s'arrêter de rire, et Nicole la première.
Et elle avait un fou rire communicatif en plus. Hein. Alors, et justement, vous savez Philippe, je trouve que c'est bien de rendre hommage aussi aux speakerines. Je pense à Isabelle Piana, qui est parmi nous, qui présente les grosses têtes depuis longtemps. Également à Virginie Baudin, à Peggy Broche, etc. Et Nicole, vous vous êtes parlé il y a longtemps avec Nicole ?
Écoutez, non.
Allô, Nicole ?
Oui.
Bonjour, Nicole.
Bonjour tout le monde.
Ravi de vous accueillir sur ce cinquantenaire de Philippe Bouvard. Il est à vous et souhaite vous parler, allez-y.
Il est à moi.
Bonjour, enfin, Nicole.
Bonjour, Philippe.
Quelle joie, mais quelle émotion aussi de vous retrouver. Hein. Est-ce que je vous tutoyais ?
Ah ben, tu m'as toujours tutoyé et je crois qu'on va continuer.
Ah oui. C'est toi qui donnais le signal des rires, souvent. Hein.
C'est possible, oui, ça c'est évident. Mais remarque, tu n'étais pas le dernier à embrayer.
Ah non. On a beaucoup ri.
On a beaucoup ri, oui, ça c'est vrai. Philippe, regardez rire Philippe déjà, c'était quelque chose d'effarant.
Ah bah oui, vous voulez dire le fauteuil qui se soulève là, comme ça.
Voilà, exactement.
Oui, non mais c'était mon côté sac de noix qui échappait aux auditeurs, mais que plus tard, les téléspectateurs ont découvert. Et je voudrais passer de la banane à un autre souvenir que Éric Laverdin a peut-être, c'était celui de la visite de Pierre Sabag, qui était, vous savez, le créateur de la télévision moderne.
Bien sûr.
Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait publié un livre qui s'intitulait « Tout pour une bonne pipe
bon. ». Ah oui, je me souviens.
Alors, il y avait absolument rien à redire à ce titre, ni au bouquin, puisque c'était les confidences et les conseils d'un amateur de bouffarde.
Oui.
Sauf qu'on avait l'esprit mal tourné, et toi la première. Hein
bon. Oui, j'avoue.
Et qu'il n'a pas compris, le pauvre sa bague, mais on était mort de rire pendant toute une interview que lui avait voulu au premier degré.
Je me souviens très bien.
Je t'embrasse très fort comme au bon vieux temps.
Moi aussi, je t'embrasse très fort.
Au revoir, Nicole. À très bientôt. Merci.
À bientôt.
Philippe Bouvard, 50 ans de RTL. Échange public revient dans un instant sur RTL. Échange public, émission exceptionnelle. Philippe Bouvard, 50 ans de RTL.
Vincent Perrault.
Alors, revenons à vous, Philippe, maintenant, si vous voulez bien. Revenons un petit peu à vous. Je discutais avant le début de cette émission un peu avec quelques personnes du public que je reconnaissais, qu'on a vu souvent. Et une personne me disait, moi, il y a une question que j'ai jamais osé demander à Philippe Bouvard. Est-ce que devant votre... on va dire votre assurance apparente, est-ce que vous avez connu le trac de l'antenne en direct ? Parce qu'on a l'impression que vous n'avez jamais eu le trac, Philippe.
Ah bah attendez, au début, c'était terrible. Et je veux dire qu'il fallait que je prenne chez le pharmacien de quoi venir à bout. Et comme mon cachet était très maigre à l'époque, la petite fiole qui me remettait finissait par absorber tout mon cachet, ce qui n'est pas le rêve de la pharmacie. Non, j'avais besoin de... Je ne sais pas si les comédiens débutants connaissent encore ça. Ça s'appelait l'élixir parigorique.
Ah, mais oui.
Et ça aidait à garder sa contenance. Mmh. Bon. Et puis, pourquoi j'avais le trac ? Et pourquoi les gens qui commencent commence à faire de l'antenne et qui commence à faire du théâtre ou du cinéma, on le traque. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Le jour où je suis devenu maître d'œuvre, j'ai refilé mon trac à ceux que j'invitais, puisque moi, je savais ce qui allait se passer, je l'avais décidé moi-même.
Mais alors, justement, vous me faites un enchaînement d'honneur. Refiler le trac à l'invité, c'est-à-dire que certains n'étaient pas toujours à l'aise avec vous, parce qu'il faut dire qu'ils connaissaient très bien votre côté piquant, un petit peu acerbe. Moi, je me suis toujours demandé si c'était un trait de caractère naturel chez vous, ou est-ce que pendant 50 ans, vous vous êtes forcé à asticoter vos invités ?
Je me suis parfois forcé.
Mais pas toujours, vous avez remarqué.
Oui, je me suis parfois forcé. J'avais, étant gamin, un côté un peu farceur et iconoclaste, bien qu'à l'époque, je ne connus pas le mot. Ensuite, j'ai vu que c'était le créneau. Il fallait se moquer un peu des gens et surtout des gens connus. Et à partir de ce jour-là, bon, je ne pense pas avoir été véritablement méchant, mais parfois, je les déstabilisais.
Oui,
voilà.
Oui.
Mais vous savez, notre métier consiste à accueillir des gens qui, généralement, ne viennent pas seulement par amitié ou sympathie pour nous, mais parce qu'ils ont quelque chose à vendre et que la radio est une bonne vitrine. Mais si vous les laissez dire uniquement ce qu'ils sont venus dire, on est un peu frustré. Alors, il faut les asticoter, comme peut-être vous allez le faire aujourd'hui avec moi.
Mais je ne vais pas me gêner. Et je dois dire que, comme vous l'avez fait, vous vous en êtes donné à cœur joie sur certains, voire sur certaines. Moi, je pense à Mireille Mathieu tout de suite.
Mireille Mathieu, est-ce que vous en avez assez qu'on vous fiance tous les mois ?
Ça m'amuse.
Oui ? Oui, alors ça fatigue pas, je veux dire, tant que ça
reste...
Oh non,
reste... ça me fatigue pas, non.
Tant que ça reste sur le papier, on n'a pas les yeux cernés. Et vous vous habituez quand même à ça ?
Il faut bien s'habituer.
Oui, une fois par mois, ça... Moi, que c'est régulier. Après, on s'inquiète, si on vous fiance pas pendant 3 mois, je dis, tiens, la petite, qu'est-ce qu'elle a ? Elle est malade. C'est aussi un signe de santé. Parce qu'il y a un tas de garçons qu'on voit photographier avec vous, on a l'impression que vraiment, vous n'étiez pas dans le coup. Mais qu'ils sont parvenus à leur fin.
Mais ils viennent à côté de moi, ils me demandent de...
Du
photo,
feu ou...
non, pas du feu, je ne filme pas.
Oui, là, ça sera un peu écourté. Alors, ils vous demandent une photo.
Oui.
Comme tous vos admirateurs peuvent le faire. À ce moment-là, surgit un photographe.
Et fait une photo, puis après, un mois après, on dit que c'est mon fiancé. C'est comme vous, si vous êtes à côté de moi, on fait une photo, après on est fiancé.
Oh. Ah, ça, je ne sais pas si on le croirait, mais...
Ah, ça aurait fait un sacré couple, hein, vous croyez pas ?
Alors, un peu plus tard, j'ai reçu Mireille pour une grande émission à la télé qui se passait à Londres. Et son impresario, qui était, a-t-on dit après, l'homme de sa vie, mais ça ne me regarde pas, avait très bien fait les choses. Il avait engagé un dialoguiste pour faire les réponses qu'elle devait effectuer à mes questions. Donc, pour la première fois, j'avais donné les questions d'avance. Et puis, elle avait appris ça par cœur et bon, on s'était dit, ça va rouler, ça a déraillé. Ça a déraillé parce que à la première question, elle a fait la réponse numéro 1, la deuxième aussi, et à la troisième, elle a fait la réponse numéro 4.
Elle s'est
gourée. Et à partir de là, rien ne collait plus.
Philippe Bouvard, 50 ans de RTL, échange public. Reviens dans un instant sur RTL. Échange public, émission exceptionnelle. Philippe Bouvard, 50 ans de RTL.
RTL non-stop, Philippe, c'était évidemment très souvent et la plupart du temps en studio, avec la régie à côté, avec Nicole, nous l'avons entendu, vos invités qui venaient. Mais il y avait quand même, et c'était le but, l'envie de faire des émissions exceptionnelles. Il vous arrivait quand même de temps en temps, entre guillemets, de vous décentraliser et d'aller, ça n'est pas arrivé souvent, mais quand même, à la rencontre de votre invité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire et où je veux vous emmener ?
Ah oui, alors là, c'était les 80 ans de Maurice Chevalier. C'était un petit gars de Belleville qui avait eu une réussite mondiale, on peut le dire, qui avait conquis l'Amérique avec un accent français à couper au couteau.
Tout le monde le comprenait, du coup.
Qui était à la fois un bon chanteur, un bon danseur et qui était un excellent comédien. Il a fêté ses 80 ans à Marne-la-Coquette, dans une belle propriété, parce qu'il passait pour être à la fois très riche et très avare. Et puis, il y avait une légende qui voulait que dans le fond du parc de la propriété, il y ait une petite maison où il enfermait une très jolie jeune femme qui lui tenait lieu de demoiselle de compagnie.
Il enfermait, vous dites ?
Bah, paraît-il. Mais vous savez, à l'époque, on n'en savait pas beaucoup sur les vedettes, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Alors on brodait, on racontait un peu n'importe quoi. Comme aujourd'hui, mais c'est devenu vrai, quoi. Et donc, on s'est aperçu, un, qu'il y avait également une très jolie femme dans le parc qui était venue nous faire un petit salut et puis qu'il avait renvoyé dans ses pénates, qu'il n'était pas du tout avare puisqu'il nous avait ensuite offert un déjeuner où il y avait à la fois le fromage et le dessert.
Bonjour Maurice Chevalier, et d'abord, au nom de tous les auditeurs de RTL et en mon nom propre, bon anniversaire.
Merci, merci infiniment. Merci.
Cette maison est encombrée de roses.
Oui, oui, ben nous avons reçu tellement de preuves d'amitié venant de tous les coins du monde. Maintenant, avec les possibilités de télégraphier pour qu'on envoie des fleurs à tel endroit, n'est-ce pas ? Et ce qui est très extraordinaire, c'est que beaucoup de mes amis ont une générosité qui se ressemblait en ce sens que beaucoup m'ont envoyé 80 roses pour me souhaiter l'anniversaire de mes 80 ans. Et un paquet de 80 roses, quand elles sont très belles, comme celles-là sont belles, c'est quelque chose de très impressionnant et de très beau.
Échange public. Philippe Bouvard, 50 ans de RTL.
Il y a une chose, Philippe, en réécoutant beaucoup d'archives de RTL non-stop, je me suis rendu compte que ce qui vous intéressait également, c'était de mettre en présence des personnalités qui, a priori, étaient de mondes différents et qui n'étaient pas faites pour se rencontrer.
Ah
c'est,
oui.
C'est vous qui étiez l'entremetteur, finalement.
Alors, si vous voulez, j'ai eu très vite deux ambitions. La première, c'était de rendre l'aide que j'avais reçue dans mes jeunes années en aidant des jeunes comédiens et des jeunes journalistes, mission accomplie. Et la seconde ambition, c'était de mettre en présence des gens qui, sans moi, ne se seraient jamais rencontrés parce qu'ils venaient de milieux trop différents. Et ça a été le cas d'une rencontre mémorable, mais qui a eu lieu ici. Il y a un vieux monsieur qui est aussi de l'Académie française, qui appartient à une des plus aristocratiques familles de France et qui est le duc de Lévis-Mirepoix. Et ma vedette du jour est Georgette Lemaire. Vous voyez, c'est donc, je ne pense pas que sans moi, ils se seraient rencontrés.
Non, ce n'est pas la duchesse le Georgette.
Je fais les présentations, elle tend la main à l'académicien. Et il fait comme il fait d'habitude, il se baisse et il pose très légèrement ses lèvres sur la main de Georgette. Et elle la retire vite et elle dit « Mais il bave le vieux
!» Retour dans le grand studio pour notre grande promenade dans les souvenirs de 50 ans de succès à RTL de Philippe Bouvard. Et alors, Philippe, que diable êtes-vous parti faire à Rio de Janeiro avec une équipe d'RTL et avec deux grandes stars de la chanson française ?
D'abord, Rio, ça ne se refuse pas quand on ne connaît pas. Ensuite, c'était l'époque du carnaval. Ça permet de s'amuser un peu. Et puis, l'occasion m'était offerte d'accompagner Johnny et Sylvie. Alors, naturellement, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, qui étaient encore mariés. Je pense qu'ils étaient encore en pleine lune de miel, qui allaient faire un gala là-bas. Et puis on avait goupillé cette affaire qui avait fait beaucoup de bruit parce que c'était quand même formidable à l'époque. Il y avait des avions à hélices. Hein. Bon, il n'y avait pas encore de réacteurs. C'était formidable de pouvoir accompagner les deux plus grandes vedettes du moment, là, non seulement dans leur gala, mais encore un peu dans leur intimité parce que, inutile de vous dire que j'avais mis à profit notre complicité dans l'avion pour avoir des confidences. Ce qu'il n'avait jamais fait.
Je suis très heureuse parce qu'on a fait un merveilleux voyage et on est rendu à Rio et tout va très bien.
Oui, il faut dire qu'on est arrivé à 6 heures du matin avec
une chaleur de 27 degrés déjà.
Et puis les sambistas qui étaient là au travail et qui répétaient depuis 4 heures du matin.
Oui, de toute façon, je pense que je pourrais vivre au Brésil plus facilement que dans un pays froid parce que moi je préfère les pays chauds.
Et puis c'est un pays gay.
Et puis c'est un pays gay, c'est un pays qui aime la musique. ce qui n'est pas donné à tous les pays. Et les gens sont extrêmement gentils et cool ici.
Alors, dans le cadre de cette balade, je vous ai entendu dire, Philippe, à quelques reprises, que vous n'aviez quasiment jamais posé une question dont vous ne connaissiez pas la réponse. Bon, j'imagine qu'effectivement, c'est une sécurité, mais est-ce que ça ne vous a pas parfois ôté le plaisir d'être surpris vous-même par la
sûrement,
réponse ?
Sûrement, sûrement. C'est quelque chose dont j'ai fait ma méthode, et je crois qu'elle n'est pas celle de mes confrères qui, au contraire, aiment bien se mettre en danger. Parce que c'est se mettre en danger que de poser une question sans savoir ce que ça va donner sur le plan de la réponse. Mais moi, qui suis très économe du temps de l'antenne, qui pense qu'il ne faut pas poser de mauvaises questions parce qu'on n'aurait pas de bonnes réponses, qui pense qu'il faut que je puisse rectifier si jamais la réponse n'est pas la bonne, qui pense qu'il faut que je puisse venir au secours de celui qui ne se souvient pas de la réponse, je suis obligé de trier et de dire... Eh bien voilà, je pose telle question parce que je crois que cette réponse va amuser ou instruire le public.
Et je me demandais, Philippe, également, parce que quand vous posez une question, bien souvent, elles sont tellement percutantes, drôles, que je ne veux pas dire qu'on se fout de la réponse de l'invité, mais et là, je vous demande d'être franc. Ne vous est-il pas arrivé de ciseler une question en vous moquant vous-même de ce que l'invité allait bien pouvoir répondre tellement votre question se suffisait elle-même et était drôle ?
Bon, on est tous pareils. À force de fréquenter des cabots, on le devient un peu aussi.
Bon aveu, bel aveu. Merci de l'avoir dit. Philippe, on s'interrompt quelques minutes, si vous voulez bien, pour laisser place à l'information. RTL, il est midi.
Philippe Bouvard, 50 ans de RTL. Avec Vincent Perrault, retour de Échange Public.
J'ai bien compris, la langue française est ce que vous préférez. Et alors, dans ce domaine, Philippe, vous avez quand même réussi à approcher les meilleurs linguistes, les meilleurs auteurs, les chanteurs qui respectaient le plus notre langue. Et même si ça a été difficile, je pense pas à Georges Brassens, là.
Ah oui, alors c'était pas un chanteur facile. C'était à la fois un génie et un bougon. C'est-à-dire qu'il n'était jamais de bonne humeur et surtout, il n'avait pas accepté l'extraordinaire célébrité qui a été la sienne. Il a continué à vivre chez Jeanne, où j'ai été le voir une fois. Il occupait une chambre qui sous-louait chez cette Jeanne qu'il avait si bien chantée. Et s'il faisait tous ses spectacles à Bobino, c'est parce qu'il pouvait y aller en 10 minutes à pied, vous voyez ? Oui. Et alors, impossible d'imaginer qu'il se prêtait aux corvées médiatiques dont raffolaient toutes les autres vedettes. Pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, je ne suis pas mécontent de lui avoir tiré, et je vous assure que c'était une petite performance, l'explication de ce retrait qu'il avait par rapport à une société qui commençait à être médiatique.
D'ordinaire, je ne cours pas tellement après les émissions. Vous savez, je ne cède que quand on me fait un siège durable. Enfin, les types qui insistent arrivent à m'avoir, mais les autres, ceux qui ne me demandent ça qu'une fois ou deux, ne m'ont pas.
Oui, vous ne pensez pas que... Vous dites beaucoup de choses dans vos chansons, mais qu'il y a une partie de vous-même qui peut intéresser sans curiosité malsaine tous ceux qui vous aiment et que vous êtes le mieux placé pour les renseigner.
Oui, mais enfin, je ne sais pas s'il faut tellement renseigner les gens sur l'état de choses. Par exemple, je ne pense pas qu'il soit indispensable à ceux qui aiment un artiste de savoir comment il prend son petit déjeuner, de quel pied il se lève, enfin...
Arriver à lui faire dire ça, c'était magnifique.
Mais alors, disons, rétrospectivement, je me dis... Quel culot j'avais, hein. C'est fou. Aller voir tout le monde, poser des questions qui n'étaient souvent pas les mieux venues, c'est fou.
En revanche, vous avez fait l'exercice opposé avec Charles Aznavour, avec lequel vous avez, est-ce qu'on peut dire que vous avez établi un record de longévité, du nombre d'émissions et de longueur d'interview ? Oui, hein ?
Je crois, parce que, alors jour-là, Éric Laverdun était du voyage, enfin un voyage qui d'ailleurs s'est limité à ce studio. Pendant 3 semaines, hein, j'ai reçu tous les jours, pendant 2h30 en direct, Charles Aznavour.
Oui, c'était en 1971 et c'était un exploit radiophonique pour vous et pour Charles Aznavour.
Alors, ce n'était pas un exploit radiophonique pour moi parce que j'avais devant moi le chanteur, je pèse mes mots, le plus intelligent que nous n'ayons jamais eu. Il n'y a pas mieux. D'ailleurs, la carrière de Charles s'explique encore plus par son intelligence que par ses talents. Et donc, on a parlé pendant 3 semaines, et puis on s'est quitté parce qu'il avait autre chose à faire.
Mais pas parce qu'il n'avait plus rien à dire.
Non, j'avais encore des questions à lui poser auxquelles il aurait répondu brillamment. Et depuis, il a une place à part dans mon cœur.
C'était en quelle année ça, Éric ?
1971, et on peut en écouter quelques petits passages rapides.
Oh que oui, écoutez.
J'ai dit Aznavour premier jour parce qu'il y en aura d'autres, Dieu merci. Je rappelle que le dernier record du genre appartenait à un nommé Aznavour Charles.
Oui, c'était l'autre.
C'est l'autre, Aznavour, qui avait obtenu déjà un score de 6 jours.
Oui.
Qui battait ainsi d'ailleurs d'une bonne tête Sacha Distel et les autres recordmen de la durée. C'est gentil à vous, Charles Aznavour, mais c'est un petit peu inexplicable que quelqu'un qui n'accepte pas de faire de matinée à l'Olympia veuille bien en faire rue Bayard.
Disons d'abord que ce n'est pas du tout le même genre de travail. Ici, on est en famille. S'il m'arrive un petit accident vocal, tout le monde s'en rendra compte. J'aurai le sourire, ils auront le sourire, ils se diront c'est humain, ça arrive.
Oui,
tandis qu'à l'Olympia, ça n'est pas permis.
Oui, ils ne peuvent pas demander à se faire rembourser puisqu'ils sont venus gratuitement. Oui, ça c'est déjà une assurance.
Philippe Bouvard, 50 ans de RTL, échange public, revient dans un instant sur RTL. Échange public. Émission exceptionnelle. Philippe Bouvard, 50 ans de RTL.
Alors, Philippe, puisque nous nous baladons dans les grands moments de votre carrière que vous avez la gentillesse de nous commenter et de vous remémorer pour nous, il s'est passé à partir du 23 septembre 1974 autre chose. Voici ce que les auditeurs d'RTL un jour ont écouté.
Le journal non-stop de Philippe Bouvard.
Eh bien oui, on prend les mêmes et on ne recommence pas tout à fait. On ne recommence pas tout à fait parce que désormais, ce journal non-stop ne vous présentera que très incidemment des chanteurs. La grande vedette que j'interrogerai tous les jours pour vous, ce sera l'actualité.
C'est certainement mon plus grand souvenir journalistique avec la prise de direction d'un grand quotidien. On me confie l'actualité. L'actualité avec une majuscule, une actualité avec laquelle on rigole pas. Et je vais voir non plus arriver des petites chanteuses ou des académiciens, mais les gens qui dirigent le pays et parfois le monde. Et j'ai la peur au ventre qu'il y en ait un qui dise, parce que parfois ce sont des coriaces, « Monsieur Bouvard, vous dites des bêtises. »
Ah oui.
Et c'est une peur qui me tenaillait les jours où je recevais celui qui, d'ailleurs, dans le classement des comiques français, s'était placé au 2e rang, suite après Coluche.
Je sais de qui vous allez parler.
Eh bien oui, c'était Georges Marchais.
Eh oui, du Parti communiste français.
Or, à Georges Marchais, je pose la question qui, en principe, il ne fallait pas lui poser. Je me suis dit, si vraiment il est ce qu'on m'a dit, il va me souffleter, il va quitter le studio et je n'aurai jamais la réponse. C'est une question sur le culte de la personnalité, qui est une espèce de tarte à la crème de la politique à l'époque, et on lui prête un ego surdimensionné.
Et je précise, Philippe, que vous êtes avec lui dans une voiture studio, en roulant, à la Courneuve, juste avant la fête de l'humanité, et la question lui est posée.
Ben, je crois qu'il y a une chose dans laquelle je ne tomberai pas, c'est le culte de la personnalité. Je n'y suis jamais tombé. Je considère que les dirigeants ont des responsabilités qu'ils doivent assumer, mais cela étant dit, eh bien, je ne veux pas qu'on déifie ma personne ou celle de qui que ce soit dans mon parti.
Alors, naturellement, ce n'était pas tout à fait exact. Hein. D'abord parce qu'il avait une personnalité énorme, parce qu'il en jouait. Et puis alors, il y a cette voix qu'on n'a jamais retrouvée chez un politicien et une voix qui suscitait des imitations.
Et notamment quelqu'un qui la tenait particulièrement bien, qui était celui qui participait à toutes vos premières émissions. Quand vous lanciez une émission, il n'était pas question que ne soit pas près de vous Thierry Leluron, que voici en train d'imiter Georges Marchais.
Moi, je remarque dans cette émission que vous causez sans arrêt de catholicisme et jamais du Parti communiste. Non, mais c'est vrai, quoi, je prends les travailleurs à témoin. Posez votre question, au revoir.
T'as marché pour la paix l'autre fois?
Ben, évidemment que j'ai marché pour la paix, puisque c'est en réalité le Parti communiste qui est derrière tous les mouvements pacifistes.
Philippe Bouvard, 50 ans de RTL, échange public, revient dans un instant sur RTL. Échange public, Philippe Bouvard, 50 ans de RTL.
Dites-moi, vous aviez quand même, Philippe, justement, dans le cadre de ce journal de 13 heures non-stop, réalisé en 1975, qu'on pourrait appeler, en termes de journaliste, un sacré scoop, en ayant la première interview du président élu l'année d'avant, qui ne s'était encore jamais exprimé à la radio avant cet entretien.
Oui.
Êtes-vous irrité lorsque la gauche, je reprends ce terme, faute d'en trouver un autre...
L'opposition.
Vous accuse de vous comporter comme un souverain.
Non, parce que c'est tout à fait inexact. Toutes les réformes qui ont été faites ont été votées par le Parlement. J'ai pris au contraire le plus grand soin, ce qu'il y ait des concertations très approfondies sur toutes les grandes décisions. Je parle de la réforme de l'entreprise, d'avoir constitué une commission spéciale, la réforme de l'éducation. Vous savez que j'ai demandé personnellement à M. Habib de multiplier les concertations de toute nature. Donc ceci n'apparaît pas du tout comme la méthode du gouvernement de ce que vous appelez un souverain.
Ah, c'était très culotté de poser à Valéry Giscard d'Estaing, qui était à l'époque président de la République, cette question. Vraiment, dès lors qu'il aurait pu le faire sortir de ses gonds. Alors, il s'est vengé quelques années plus tard.
Ah bon? Comment?
En supprimant l'abattement fiscal dont bénéficiaient les journalistes.
C'est-à-dire que pour une question, vous avez privé toute la profession d'un avantage. Ah ben bravo, Monsieur Bouvard. Toutes mes félicitations. Au milieu de toutes ces sommités politiques dans le journal de 13 heures non-stop, vous vous êtes aussi octroyé de temps en temps des parenthèses avec des interviews un peu plus, entre guillemets, légères.
Oui, mais... de temps en temps, il en fallait une.
Bien sûr. Mais en même temps, léger ne veut pas dire délicat à traiter. Quand, par exemple, vous avez en face de vous entre guillemets, la mère maquerelle la plus célèbre de France.
Oui.
Madame C.
Claude.
Madame Claude. Allez, Claude. Appelons un chat, une chatte, oui. Un chat, enfin bon, bref. Quand vous avez Madame Claude devant vous, soit elle vient d'écrire un livre de mémoire, mais c'est quand même un...
Attendez, Madame Claude, et je pèse mes mots, la personne la plus convenable que j'ai jamais rencontrée. Elle portait une voilette et des mitaines, c'est quand même assez rare. Bon, en plus, quand on lui parlait de prostitution, elle comprenait pas le mot, elle disait « quelle prostitution ?» J'ai simplement présenté des jeunes filles à des amis, sauf qu'elle ne connaissait pas bien les amis et que les jeunes filles n'étaient plus depuis longtemps.
Il y a, voyez-vous, beaucoup de différences, si vous voulez, entre la jeune femme qui se trouve dans une rue chaude d'import et je crois les jeunes filles qui officiaient chez moi.
Vous n'hésitez pas à écrire que... dans le fond, vous avez beaucoup œuvré pour la paix des ménages.
Oui, c'est certain. C'est beaucoup plus facile pour un homme de me téléphoner et de voir quelques-unes de mes jeunes filles pendant 2 heures. C'est plus agréable pour sa femme, en tout cas, que de le voir se lancer dans une liaison à long terme.
Mais de là à écrire que certaines dames vous sollicitaient de reprendre en main leur mari, ça me paraît quand même...
Oui, c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois. Elles ont compris, justement, ce sont des femmes qui sont un petit peu plus...
Oui, oui, bien sûr.
Voilà.
Oui, donc, enfin, dire la main-d'œuvre qualifiée est une chose si rare de nos jours, la conscience professionnelle aussi, qu'il vaut mieux frapper une meilleure porte.
Voilà.
Ah, le petit commentaire final, vous ne pouvez pas vous empêcher. Hein.
Philippe Bouvard, 50 ans de RTL, échange public, revient dans un instant sur RTL.
Revenons à quelque chose de plus sérieux et puis dites, vous avez vu l'heure, ça va être le dernier témoignage de cette première émission de samedi. Mais attention, on se retrouve demain à la avec vous, vous restez avec nous bien sûr, hein, très bien. Revenons à l'aspect plus journalistique et vous étiez pour ça bien entouré puisque Jacques Pessis faisait partie de vos assistants.
Oui.
Et un jour...
Un jour, il y a une dépêche d'agence qui tombe. Et vous savez, c'est à partir de ça qu'on réagit, surtout dans un journal de la mi-journée. Et cette dépêche dit que le Négus, alias le roi des rois, excusez du peu, qui est un tout petit bonhomme, mais fascinant, qui a longtemps vécu en France, que le Négus est dans son palais, prisonnier de ses officiers... et que le coup d'État a renversé complètement son régime. Alors, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, il y a Pessis, qui, avec son air de ne pas y toucher, dit « Ah ben, j'ai le numéro de téléphone du Négus !» Ce qui est totalement inattendu.
Oui,
parce
oui.
que, bon, Pessis et le Négus, ce n'est pas un couple...
C'est deux mondes assez différents, oui,
bon.
Oui.
Alors, il serre son gros calepin, et à la lettre N, il y a le numéro du Négus. On dit, bon, on va appeler le Négus, quoi.
Tiens.
On risque rien. De toute façon, c'est la station qui paye la communication. La sonnerie ne grésille pas très longtemps et il y a une voix qui répond. Je dis, est-ce que je pourrais parler au Négus? C'est moi, dit la voix. Ah bon? Je dis, pardon, majesté, parce que j'ai quand même un peu d'éducation avec les grands de ce monde. Hein. Pardon, majesté, mais... On me dit que vous avez des ennuis et qu'on a monté contre vous un coup d'État. Et il me dit, ben non, non, vous voyez, ça va bien, je me suis parfois un peu disputé, mais bon, mais tout va bien. Et bon, c'était quand même fabuleux d'avoir ce témoignage
Joli
en
scoop.
Direct
oui.
de quelqu'un dont on parlait dans les journaux sans avoir la possibilité de lui donner la parole. Sauf que le lendemain... Il est mort, étouffé par ses officiers avec des oreillers.
Quel beau scoop journalistique !
Échange public, émission exceptionnelle. Philippe Bouvard, 50 ans de RTL.
Eh oui ! Alors, je voudrais, Philippe, pour terminer cette première heure, qu'on parle un petit peu du rire, parce que on peut être journaliste, présenter RTL non-stop ou même le journal de 13h non-stop et avoir évidemment envie de rire. C'est ce que vous avez toujours eu et j'aimerais vous demander si, à votre avis, est-ce qu'il faut s'amuser soi-même pour vraiment amuser le public?
Oui, je crois que si on ne participe pas activement, si on n'est pas le premier spectateur du spectacle que l'on propose au public, ça ne marche pas ou ça marche moins bien. Mais comme je faisais venir des gens qui m'avaient fait hurler de rire, je formais le projet qu'ils riraient autant que moi.
Oh, mais j'en ai même la preuve, puisque j'ai même cherché et retrouvé dans quelques archives bien cachées la preuve que vous faites parfois tellement rire vous-même que vous avez du mal à arriver au bout. Et c'est avec cette histoire que nous allons terminer cette première émission des 50 ans de Philippe Bouvard. Philippe ne connaît peut-être pas ce document, mais écoutez, pour terminer, c'est vraiment à mourir de rire.
Il y a une jolie histoire que racontait je ne sais plus qui ici il y a longtemps, mais enfin elle est toujours valable. C'est là, dans une clinique tenue par des religieuses, on va opérer un type de l'appendicite et alors il faut le raser pour lui enlever toute la toison pubienne pour que le chirurgien ne dérape pas. Et alors il y a une religieuse qui vient avec le blaireau. À l'époque, il y avait encore des blaireaux.
Il y en a toujours.
La mousse à raser. Et puis, d'une main, elle a le blaireau. De l'autre, elle prend le sexe du malade. Et puis, au d'un moment, il se soulève un peu. Il dit, vous pouvez la... Il dit, vous pouvez lâcher maintenant, ma sœur. Ça tiendra tout seul. C'est vraiment pas correct. Mais encore aujourd'hui, le sac de noix reprend ses droits.
Ah, comme vous dites. Bien, nous allons nous retrouver demain en lieu et place d'Allo Bouvard pour une deuxième émission pendant encore une heure avec vous dans le grand studio pour évoquer et feuilleter le grand livre des souvenirs de Philippe Bouvard pour célébrer ses 50 ans de succès à RTL. Merci à vous tous, rendez-vous demain à la même heure. À demain, Philippe.